Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Bêtes portent bien mal leur nom. Les dernières avancées scientifiques montrent que les animaux raisonnent, anticipent, utilisent des outils. Ils sont capables de mentir, de résoudre des problèmes et de s'adapter à leur environnement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux mammifères dont Fabienne Delfour est une spécialiste. Fabienne Delfour est éthologue, chercheuse associée au laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée de l'Université Paris 13, et elle est directrice de l'organisme Animaux et compagnie, dédié à la relation homme-animal. Son dernier livre, Que pensent les dindes de Noël ? Oser se mettre à la place de l'animal, a été publié chez Tana Édition. Pour Fabienne Delfour, il faut faire attention lorsque l'on parle de l'intelligence des animaux. Ils ne pensent pas et ne réagissent pas comme nous. Les intelligences peuvent revêtir de multiples formes.
Les aventuriers sur France Inter.
L'intelligence, c'est la manière de traiter l'information. Donc, ça va dépendre de l'espèce à laquelle on va avoir affaire, puisque l'appareillage sensorimoteur va être différent. Donc, par exemple, les requins sont sensibles aux champs électriques. La chauve-souris voit dans les ou entend les ultrasons. Donc, on comprend bien que si on veut étudier l'audition chez la chauve-souris, on va aller dans ces ultrasons. L'abeille voit les ultraviolets, donc on va étudier aussi cette gamme de couleurs. Donc on va partir de l'espèce, on va construire un protocole qui est dépendant de l'espèce à laquelle on a affaire, et après on va poser des questions. Et comme on s'intéresse à l'intelligence, on va soumettre des problèmes aux animaux, et ils vont devoir trouver des solutions et mettre en place des stratégies.
Vous êtes une spécialiste des grands mammifères marins. Comment est-ce que vous testez l'intelligence des dauphins, par exemple ?
Comment étudier l'intelligence de ces animaux ? C'est d'abord connaître leur biologie, leur physiologie, leur écologie et trouver des questions qui sont adaptées à ces animaux-là. Pendant très longtemps, on s'est inspiré des travaux qui étaient faits en primatologie. Donc on a souvent posé des questions de chimpanzés à des dauphins. Et au jour d'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chimpocentrisme dans cette éthologie cognitive, puisque beaucoup d'éthologues s'inspirent des travaux des primatologues. Et je pense que c'est un piège parce que le dauphin n'est pas un chimpanzé, ça paraît comme ça assez évident, mais il vit dans une écologie qui est différente, il va être soumis à un environnement qui est différent, il va avoir des problèmes qui sont spécifiques de la vie qu'il est en train de mener. Donc on doit poser des questions de dauphin à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats. Donc trouver les questions en fonction de l'espèce. Et après, ça dépend de ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est la mémoire des animaux ? Est-ce que c'est la capacité à numériser ? Voilà, donc ça dépend aussi du sujet qui nous questionne.
Qu'est-ce que vous posez comme question aux dauphins et comment vous le faites ?
Alors, je me suis intéressée à la capacité à reconnaître l'image de soi dans un miroir. Question que j'ai posée à des orques et aussi à des dauphins en milieu naturel. Et donc pour cela, on a placé un miroir et on a regardé comment les animaux se comportaient face au miroir. Si l'animal est capable de reconnaître l'image comme étant une représentation de lui-même, il va avoir des actes autodirigés vers son propre corps et ces actes vont être aussi contrôlés par le regard qu'il va poser. Donc je vais diriger ma patte vers tel ou tel endroit de mon corps. Ou pour le dauphin, je vais positionner une certaine partie de mon corps vers le miroir et je vais pouvoir l'examiner.
Le test du miroir a été passé par des grands singes, des dauphins, donc des orques, des éléphants, des cochons, des pies et même des macaques. Extrait d'une émission de France 2.
Récemment, ces éléphants du zoo New York ont vu arriver un grand miroir dans leur enclos. Premier réflexe, chercher derrière, renifler, puis se regarder dedans. Pour savoir si Happy, l'éléphante la plus curieuse, avait conscience d'elle-même, les chercheurs ont dessiné une croix sur son front. L'incroyable arrive, Happy se touche le front avec la trompe, elle se voit dans le miroir.
L'éléphant, dans cet extrait, se reconnaît dans le miroir parce qu'il voit qu'il y a un problème.
Oui, alors déjà, ce qui est précisé, c'est que les expérimentateurs arrivent avec un grand miroir, parce qu'une expérience au préalable avait été faite avec un miroir de petite taille, et les éléphants ne s'étaient pas reconnus. Donc, ils avaient conclu que l'éléphant n'avait pas la capacité à reconnaître son image spéculaire. En augmentant la taille du miroir, les éléphants se sont reconnus. Donc déjà, on voit bien l'ambiguïté à monter ces protocoles. On doit être aussi capable de répondre à l'exigence des animaux. Donc là, c'est un grand miroir. Effectivement, l'éléphant, d'abord, va regarder ce qui se passe derrière. Donc, il va utiliser le miroir comme un outil pour regarder son environnement. Et puis après, il va utiliser cet outil pour regarder son propre corps. Donc, il va s'auto-inspecter, s'auto-examiner. Donc ça, ce sont des étapes qu'on va retrouver chez beaucoup d'animaux.
Est-ce qu'on peut parler de QI chez les animaux, de quotient intellectuel ?
Alors, on va parler de coefficient d'encéphalisation, qui est la proportion du cerveau qui est réservée à ces activités cognitives. Après, calculer ces coefficients ou calculer ces quotients intellectuels, c'est aussi placer ces animaux sur une échelle qui est très anthropo-référencée.
Et ça, c'est dangereux.
C'est extrêmement dangereux parce que le but ultime de cette échelle, c'est parvenir à l'intelligence humaine qui est considérée comme l'exemple absolu. Ça n'a pas de sens. Ça va dépendre, l'intelligence, ça dépend de notre biographie, ce qu'on a vécu auparavant, des contacts sociaux qu'on a pu avoir, de nos apprentissages, de notre vie sociale, du milieu dans lequel aussi on vit. Et puis, on peut avoir des intelligences diverses. On a des intelligences très pratiques. Et puis, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus dans la réflexion. Donc, il n'y a pas une intelligence uniforme pour une espèce.
Quand on s'intéresse à l'intelligence des animaux, on étudie quoi ? Leur mémoire, leur capacité à anticiper, à être conscient d'eux, comme on l'a vu avec le test du miroir. Qu'est-ce qu'on regarde ?
Alors, étudier les capacités cognitives des animaux, c'est étudier comment ils traitent cette information. Traiter l'information, c'est déjà comment ils acquièrent cette information. Donc, on va regarder comment ils prélèvent de l'information qui va devenir pertinente pour eux, comment ils la stockent, donc on peut avoir de la mémorisation, par exemple, et comment ils l'utilisent. Et ça peut être, par exemple, anticiper ou planifier des comportements. On a des animaux qui vont stocker de la nourriture, et puis, en période de disette, ils vont aller dans ces cachettes-là et vont pouvoir retrouver cette nourriture-là. On a des chimpanzés qui vont casser des noix, et pour préparer cette activité, ils vont déjà partir avec des outils. Donc il y a l'idée que dans ce voyage que je prépare, je vais préparer une activité d'alimentation. Donc on a de la planification, par exemple.
Vous avez prononcé le mot outil. Il y a aussi des animaux qui utilisent des outils. Et on a longtemps dit que c'était une preuve d'intelligence supérieure.
La capacité à s'approprier un élément de l'environnement et à l'utiliser à une fin spécifique, pour les chimpanzés, casser des noix par exemple, pêcher des termites, ou chez les corvidés, on a des corbeaux qui sont capables de façonner des petits hameçons pour aller pêcher des larves dans des souches d'arbres. C'est quand même une capacité à repérer dans cet environnement un élément auquel je vais pouvoir donner du sens. Et je vais pouvoir utiliser. Donc effectivement, l'utilisation d'outils a été souvent perçue et analysée par les éthologues comme un acte d'intelligence. Maintenant, je travaille sur les cétacés. Très peu de cétacés utilisent les outils.
Oui.
Et c'est pas pour ça qu'ils sont moins intelligents.
On sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Placé sur le devant du nez, on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise,
sortir avec une demoiselle. On l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse. Va des rétro rhinocéros. Voilà qui se retrouve le couple d'agrafes. Elle appelle au secours. On veut lui mettre un pantalon, mais il est trop court. Animal, on est mal. On pond ses œufs dans le sable. Et quand on passe à table, les chevaux vapeurs. On prie peur de se retrouver loin de leur.
Animal, on est mal, c'était Gérard Manset.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Raisonner, communiquer par le langage, planifier, mémoriser, apprendre, manier la complexité ou faire preuve de créativité sont des comportements intelligents. Grâce aux apports de la génétique, des sciences cognitives et des spécialistes de l'évolution, on sait aujourd'hui que l'intelligence animale n'est pas unique. Fabienne Delfour est une spécialiste des mammifères et en particulier des cétacés.
Alors les cétacés, quand on parle de l'intelligence des cétacés, il faut savoir que souvent on réduit cette intelligence à celle des animaux qui sont le plus étudiés. Les animaux qui sont le plus étudiés, ce sont les dauphins. Ce qu'on sait sur l'intelligence des dauphins, c'est effectivement qu'ils sont très très proches de, par leur capacité, des capacités cognitives qu'on va retrouver chez les grands primates. Donc on va retrouver de la mémorisation, on va retrouver beaucoup d'activités sociales. Et quand on parle d'activités sociales, on parle de communication aussi. Donc ils ont une communication gestuelle mais aussi vocale qui est extrêmement développée. Donc on a des vocalises qui sont corrélées à des comportements spécifiques. On a des vocalises qui aussi sont là pour signifier une émotion particulière. Donc il faut corréler activité gestuelle, corporelle et activité vocale. Et là, on a une synthèse de ce que peut être l'animal dans son milieu et qui agit dans ce milieu-là.
Flipper !
Regarde-le, papa, il nous dit sûrement quelque chose.
Calme-toi, je t'en prie, tu veux nous faire tourner en bourrique à la lance.
Mais je t'assure, enfin, regarde-le !
Je crois qu'il a raison, on dirait qu'il a découvert quelque chose.
Oui, il a l'air bien excité. Bon, c'est bon, on y va.
Quand les dauphins communiquent, est-ce qu'on sait ce qu'ils disent, entre guillemets? C'est un petit peu compliqué, ma question. C'est difficile de la formuler sans être anthropocentré.
Alors, le premier challenge qui n'est pas encore résolu aujourd'hui, c'est qu'on est incapable d'attribuer un son à un animal. Parce que le dauphin, quand il vocalise, il n'a aucune manifestation corporelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas ouvrir la gueule pour émettre un son. Et en plus, les sons qu'il va émettre vont être véhiculés dans un milieu liquide et les ondes vont être véhiculées extrêmement rapidement. Donc on a un animal qui vocalise, aucune distinction possible pour savoir dans le groupe qui est l'animal qui émet la vocalise. Et on veut suivre une conversation entre dauphins. Oui. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on va faire, c'est, alors, avec des collègues, on est en train de construire un outil qui va nous permettre de localiser la source sonore. Donc dans un groupe de dauphins, on va être capable de trouver l'individu qui émet des clics à un moment particulier. Donc à partir de là, on sait quel est l'individu qui vocalise et on va pouvoir regarder l'attitude ou le comportement de ses congénères. Et là, on va pouvoir analyser ce qui se passe et a posteriori interpréter en disant ben là, c'était plutôt de la navigation pour aller chercher des proies. Là, c'était plutôt un regroupement pour socialiser, etc. Mais en direct, comme ça, c'est extrêmement compliqué.
C'est vrai qu'on utilise des symboles visuels ou acoustiques pour essayer de communiquer avec eux ou essayer de comprendre ou pour les étudier.
Je pense qu'il y a une distinction à faire entre communication et conversation. Effectivement, l'humain est capable de communiquer avec d'autres espèces. Il va utiliser une communication symbolique, par exemple, ce qui a été fait avec des grands singes. On va utiliser une iconographie qui va donc permettre d'associer une action ou un objet à un symbole. Et on va pouvoir, comme ça, échanger avec des animaux. On a fait la même chose avec les dauphins, c'est-à-dire on a appris à des dauphins à associer un symbole à une action ou à un objet. Lors de ces travaux, c'était une communication qui était unidirectionnelle. C'était l'humain qui apprenait et qui demandait au dauphin à répondre. Mais on n'a jamais vu un dauphin arriver avec un lexigramme en lui disant bah, « je vais moi t'apprendre aussi ce qui se passe dans mon milieu de dauphin » et ça correspond à ça. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on prend le temps de s'immerger avec les animaux, on s'aperçoit que certains individus ont assez de patience pour nous accompagner vers leur univers. Donc, ils vont nous laisser pénétrer leur sphère familiale et on va pouvoir observer des comportements extrêmement intimes, parfois. Donc, ça va être des soins de nourrissage partagés.
Mais racontez-nous un exemple, racontez-nous un souvenir.
Le souvenir qui me revient souvent en tête et qui pour moi était mémorable, c'était aux Bahamas. Je travaille depuis 20 ans avec une chercheuse. C'est la fin de la journée, le bateau est ancré et on voit arriver un groupe de dauphins. On voit rapidement qu'il s'agit de femelles avec des petits. Et on se met à l'eau pour les observer, pour les filmer. Et là, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que les femelles sont parties. Elles nous ont laissé la charge des bébés dauphins. Et là, alors c'était assez... Il y avait de la joie, de la stupeur aussi, parce que c'était la première fois que je voyais une espèce sauvage laisser ses bébés à des humains. Mais je pense que ça avait du sens parce que ma collègue étudie depuis 30 ans ces animaux, ils la connaissent, ils savent qu'il n'y a pas de danger potentiel. Donc voilà, là c'était une porte qui s'ouvrait en disant... pourquoi ne pas profiter du fait que vous soyez des baby-sitters potentiels
des dauphins-sitters.
Des dauphins-sitters. Et puis nous, on va faire autre chose. Mais ça a duré presque une heure. Donc je trouvais ça, c'est intriguant.
Qu'est-ce que vous avez fait avec les bébés dauphins?
On a joué, on s'est inquiété parce qu'on se demandait si les mères allaient revenir. Mais non, c'est assez joyeux comme moment. Et puis on est pris dans un espace-temps... assez particulier puisqu'on est dans la rencontre, dans l'interaction et le temps file.
Standing in the spot where the last hit fell, your magnolia scent still lingers there. They say I should wish you well. Truth is really don't care.
Do up, do up. Do up, do up. Do up, do up. Do up, do up.
Memories of you are mine. In my dreams, you're standing there. Still, I try to wish you well. what I can feel, what isn't real love. Blue confetti falling, born a man broken hearted. Do up, do up.
Loving Memory, on écoutait Gabriels.
Les aventuriers sur France Inter.
Les émotions influencent les capacités cognitives des mammifères. Une émotion négative perturbe l'apprentissage d'une tâche. Fabienne Delfour a d'ailleurs découvert qu'une forte concentration d'hormones était sécrétée par les dauphins lors d'une émotion négative. Face à une émotion, chaque espèce a un type de réaction différent.
La difficulté, c'est que l'animal ne va pas témoigner de l'émotion qu'il ressent. Donc, on va devoir trouver des indicateurs qui vont nous permettre de déceler et de distinguer des émotions. Donc, pour les chats, les chiens, les chevaux, les moutons, ça peut être la position des oreilles, en avant, en arrière, qui va nous dire si l'animal est plutôt attentif, curieux, apeuré, etc. Il y a aussi, comme chez l'humain, des animaux qui vont pâlir ou rougir. Donc on a, il y a une très jolie expérience qui a été faite avec des perroquets,
oui.
Où voilà, les perroquets rougissent de plaisir. Donc ça c'est extraordinaire aussi. Donc ils rougissent de plaisir dans des interactions positives avec leurs congénères, mais aussi en interaction avec leur soigneur animalier. Et puis on a des, là aussi on va utiliser des vocalises. On a des vocalises qui signifient j'ai peur ou alors je suis plutôt content. Donc par exemple, les chiens qui aboient dans les aigus, ils vivent une situation qui est plutôt anxiogène. Les dauphins ont une vocalise qui signifie « je suis satisfait, je suis content ».
Ah oui, ça vous le reconnaissez, ça?
Oui, ça a été vraiment spécifié, voilà, soit parce que le dauphin avait pu saisir la proie qu'il convoitait ou un objet qu'il désirait. Et il y a ce qui a été nommé en anglais « victory squeal », qui est vraiment une vocalise de contentement, de satisfaction.
Les baleines, les éléphants.
Alors là, je ne peux pas dire qu'ils ne le font pas parce qu'on n'aura jamais posé la question. Donc la connaissance actuelle, que ce soit des capacités cognitives des animaux ou des émotions, dépend des questions qu'on va leur poser. Donc peut-être que l'éléphant barille de plaisir à un moment donné.
J'ai retrouvé un texte d'un philosophe qui vivait à Rome au 1er siècle, c'est Plutarque.
Il y en a qui admirent dans l'éléphant l'éducation dont il est susceptible et dont il fait preuve sur nos théâtres. Ses mouvements et ses danses que les hommes ont peine à imiter, quelques soins qu'ils y mettent ou même à retenir. Pour moi, je vois éclater davantage l'intelligence de cet animal dans les affections et dans les penchants qui lui sont naturels et qu'on ne lui inspire pas, comme étant les plus simples et les plus vrais. Il n'y a pas longtemps qu'à Rome, on en dressait plusieurs à des tours et à des exercices extraordinaires, difficiles à exécuter. On raconte des choses merveilleuses de ceux qui sont sauvages et vivent en liberté, surtout quand ils passent des rivières. Le plus jeune et le plus petit d'entre eux y entrent le premier. Les autres se tiennent sur le bord. Et s'ils voient que sa croupe est au-dessus de l'eau, ils en concluent qu'étant plus haut que lui, ils peuvent traverser la rivière en toute sûreté. Plutarque, Intelligence des animaux.
C'était bien vu, non?
C'était très très bien vu, oui, oui. Et puis bon, c'est une description assez profonde aussi de la diversité de ce que peut vivre un animal.
Fabienne Delfour, vous menez des expériences avec les animaux pour comprendre leurs réactions, mesurer leur intelligence, entre guillemets, bien que ce soit toujours délicat de parler de ce mot, on se rapproche trop de l'intelligence des hommes. Mais vous faites aussi des tests de personnalité. Chaque animal a sa personnalité.
Ce qui est intéressant, c'est la diversité dans le règne animal. Donc, bien sûr, chaque espèce va être différente, mais au sein d'une même espèce, chaque individu va avoir un tempérament, une personnalité différente. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on s'en aperçoit tous, quand on passe du temps à observer ou à vivre avec les animaux. Si vous avez un chat ou un chien, vous connaissez ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il effraie. Donc, on a des caractères stables dans chacun des animaux. Donc ces caractères stables vont définir la personnalité des animaux. Donc on va étudier ces personnalités soit au travers de questionnaires qu'on va poser à des personnes qui s'occupent de ces animaux. Donc ça peut être un propriétaire de chat, de chien, ou ça peut être des soigneurs animaliers par exemple qui passent beaucoup de temps avec leurs animaux. Ou alors on va combiner aussi avec des observations directes. Donc on va placer des animaux dans des situations qu'on va contrôler et on va regarder comment ils se comportent. Par exemple, face à la nouveauté.
Mais ça sert à quoi de s'intéresser à la personnalité des animaux ?
Pour moi, c'est une approche plus juste, puisqu'on va être capable de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il effraie. Donc on va pouvoir adapter son comportement par rapport à chacun de ces animaux. Donc si je sais que j'ai un chat qui est timide, je vais prendre peut-être plus de précautions que si j'ai un chat qui est plutôt extraverti, joueur, curieux. Et puis ça permet aussi de comprendre plus finement aussi comment des dysfonctionnements peuvent être mis en place entre des couples humains-animaux, parce qu'il y a des incompatibilités de caractère. Et donc, on va essayer de, dans les cas d'adoption, par exemple, pour des chats ou des chiens, on va essayer de faire que leur personnalité se corresponde pour qu'ils puissent vivre harmonieusement ensemble.
Ça, on comprend bien. Mais vous qui étudiez les dauphins, qu'est-ce qu'on peut dire de la personnalité des dauphins ? Il y a des timides, il y a des dauphins qui sont plus courageux que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, chez les dauphins, on va retrouver aussi ces traits de caractère. Donc, il y a des dauphins qui aiment être caressés, d'autres pas du tout. Il y en a des dauphins qui sont extrêmement curieux, joueurs, il y en a d'autres qui sont plutôt introvertis. Il y a une caractéristique aussi qu'on va retrouver chez d'autres animaux, c'est qu'en vieillissant, on devient de moins en moins sociable et de plus en plus agressif parfois, ou moins tolérant. Et ça, on le retrouve aussi chez les dauphins.
Les performances des animaux. Encore une fois, c'est difficile d'utiliser ce mot. Ça dépend de leur personnalité, mais aussi du contexte, de leurs émotions, j'imagine.
Donc, vouloir étudier les performances des animaux, ça veut dire qu'on va regarder comment il répond ou quelle stratégie il met en place lorsque je lui pose une question particulière. Donc, si j'ai un animal qui est craintif, déjà, le contexte dans lequel je le place, qui peut être un contexte expérimental, le met est anxiogène pour lui. Donc il va devoir prendre beaucoup sur lui pour déjà affronter cette situation. Et si en plus je lui pose des questions, ça demande d'autres efforts. Alors qu'un animal qui est plutôt extraverti, dans cette situation expérimentale qui est la même, qui est identique, il la vivra de manière différente. Donc leurs performances seront différentes. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est plus sur la défensive ou qui est plus sur la retenue ou sur la crainte est moins intelligent que l'autre.
Je vous propose d'écouter un extrait d'une émission de 1947. René Sudre, qui était écrivain, philosophe et scientifique, parlait des chevaux calculateurs.
Les chevaux d'Elberfeld étaient des chevaux calculateurs. Ils ont été visités par tous les plus grands savants du monde qui ont donné leur attestation. Et cette attestation conclut nettement qu'il ne s'agit pas là d'une communication entre leur dresseur, leur éleveur et eux-mêmes, mais d'une faculté tout à fait surnormale, n'est-ce pas ? Le professeur Bone a été obligé d'admettre qu'ayant demandé à un de ses animaux de trouver la différence entre deux racines quatrièmes d'un nombre de six chiffres, mon ami Sainte-Lagu qui est là va nous dire peut-être ce que ça représente au point de vue des
difficultés
mathématiques.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je tire mon chapeau devant ce cheval, parce que je suis absolument incapable d'en faire autant.
Eh bien, il a donné immédiatement la différence entre ces deux racines quatrièmes. Le professeur Beaune l'a constaté, il l'a écrit. Ce qui montre, en somme, qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de discontinuité entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, je trouve ça extrêmement incongru.
Oui.
Enfin, ça n'a pas vraiment de sens pour l'animal. Est-ce qu'il serait capable de répondre à cette question en anglais, en japonais ou je ne sais pas. Je trouve que là, on est dans le paradoxe aussi.
C'est du gadget.
Oui, et puis ça montre à quel point cette étude de l'intelligence animale, elle est anthropo-référencée. Ça sert à quoi de poser des équations à l'animal ? Est-ce que ça a du sens pour lui ?
Est-ce qu'on peut parler du dressage ? Est-ce que le dressage est efficace quand les animaux sont plus intelligents, entre guillemets, encore une fois ?
Dresser un animal, ça veut, enfin, ce qu'on sous-entend, c'est lui faire apprendre quelque chose qui est peut-être pas a priori présent dans son répertoire comportemental. Donc c'est lui apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, c'est pareil. Plus on aura un animal qui est prompt à apprendre, et plus on aura des résultats rapidement sur ses apprentissages.
Je vous propose d'écouter un extrait d'émission qui a été diffusé sur France Culture et Bartabas et son fameux cirque Zingaro. Bartabas s'exprimait ce jour-là à propos du dressage.
La seule grosse différence technique qui existe entre le danseur, le comédien ou même le musicien qui doit faire ses gammes et le cheval, entre guillemets, c'est que le cheval ne peut pas accepter la souffrance parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait ça. On dit toujours, un cheval, on n'impose pas, on propose, et il dispose. Et ça, c'est une philosophie qui est pour tout le travail. Tu ne peux pas y aller en force. C'est la rencontre d'un homme et d'un animal. Donc chacun a son vocabulaire. Lui, il parle cheval, vous, parlez humain, quoi. Donc déjà, il va falloir trouver un vocabulaire commun. Donc petit à petit, de l'approche déjà, la manière dont vous allez l'approcher, vous situer corporellement à pied autour, puis monter dessus, puis des codes simples au début, se porter en avant. Donc vous allez commencer à faire un vocabulaire commun. Et puis ce vocabulaire va devenir une grammaire.
Est-ce qu'il a raison, Bartabas, à propos de ses chevaux ?
Je pense que si on veut communiquer avec un autre, quel qu'il soit, proposer une conversation ou proposer une communication, on est plutôt dans le bon côté de la chose. Forcer ou contraindre, on aura perdu la confiance, on aura perdu l'intérêt, on aura perdu de la motivation, l'envie à aller vers l'autre.
L'intelligence des animaux, c'est un sujet qui intéresse les humains depuis longtemps. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ? Est-ce qu'on a un tournant aujourd'hui ? On a l'impression qu'on est de plus en plus sensible au monde animal.
Nous sommes sensibles au monde animal et il y a une redéfinition aussi de la façon dont on perçoit les animaux. On parle aujourd'hui de sentience animale, ce qui regroupe le fait que l'animal a la possibilité de vivre sa vie à la première personne, d'avoir des états émotionnels, d'avoir la capacité à jouir de lui-même, d'avoir une vie mentale extrêmement riche. Donc une fois qu'on conçoit l'animal de cette manière, on ne peut que le considérer d'une manière différente. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui, c'est s'intéresser à cette sentience animale chez les poissons, chez les insectes, les reptiles, etc. Donc sortir peut-être de ces grandes espèces emblématiques, mais j'en suis la première aussi en cause, puisque j'étudie les mammifères marins.
Oui.
Mais voilà, je pense que l'éthologie mériterait à s'intéresser à cette sentience animale.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet ?
J'ai pas choisi d'étudier l'intelligence animale. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était le comportement. Alors, j'étais plutôt attirée vers les gros animaux, les éléphants ou les cétacés. Et puis, très très vite, j'ai vu la richesse qu'il y avait à étudier ce comportement, parce qu'il me permettait aussi de conjuguer la relation qu'on pouvait avoir avec l'animal. Ce qui m'intéressait aussi, c'était sortir de cette vision très anthropocentrée, et essayer de trouver une façon de pouvoir adopter la perspective de l'animal, ce que j'ai trouvé avec l'éthologie constructiviste, qui me permet d'étudier les mondes animaux. Mmh. Et là, franchement, je peux continuer pendant des décennies encore.
« comme un chasseur de papillons. Je cours derrière les émotions en allant le plus loin possible sur les chemins de l'invisible, là où le cœur bat la mesure, l'air devient de plus en plus pur, une impression d'apesanteur qui remet les pendules à l'heure. Et quand la chasse a été bonne, j'en fais profiter des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant comme on se comprend. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter, danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons, partir chasser les papillons. L'humanité, quel terrain de jeu pour l'inspiration qui dit mieux, des histoires à n'en plus finir et des notes pour se faire plaisir. Tous les jours je pars en vadrouille, et même quand je reviens bredouille, je me dis, attends que la muse te rappelle, le jeu en vaut bien la chandelle. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter et danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons, partir chasser les papillons.
Vous l'avez probablement reconnu, Louis Chédid, chasseur de papillons.
Les aventuriers sur France Inter.
L'intelligence ne se résumerait pas à la seule capacité d'abstraction. Elle passe aussi par l'apprentissage ou les interactions au sein d'un groupe. L'intelligence ne dépend pas non plus de la taille du cerveau. Voilà pourquoi il est très difficile de mesurer l'intelligence chez les animaux. L'éthologue Fabienne Delfour ne réussit pas toujours à mener ses recherches comme elle le voudrait, car elle n'a pas tous les codes.
Pendant très longtemps, on s'est focalisé à essayer de trouver des corrélats entre l'activité cérébrale et la capacité à traiter cette information. Donc, on a calculé le nombre de neurones dévolus à telle ou telle activité, la masse du cerveau par rapport à la taille de l'animal. Donc, on a des rapports, des quotients, des coefficients. Bien sûr, il faut ancrer sur un substrat biologique cette intelligence, mais franchement, en tant qu'éthologue, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qui sort de ce cerveau-là, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de neurones, quel que soit le coefficient intellectuel, oui, etc. Que fait l'animal avec tout ça? Et pour moi, un animal qui est capable de créer, d'innover, de s'adapter, voilà, ça, c'est de l'intelligence au quotidien.
Le rapport entre la taille de l'animal et la taille du cerveau, on a longtemps dit que c'était ça qui faisait que l'animal était plus intelligent. C'est vrai ou pas?
Alors, on va calculer des rapports. Donc, par exemple, la masse du cerveau par rapport à la masse corporelle, elle est de 1%. Donc, si on est dans ce 1%, on a plus de chances d'être classé comme un animal intelligent. Mais ça veut rien dire, en fait. On voit bien que même si on prend une seule espèce, donc on a la même taille de cerveau, on a le même nombre de neurones, on n'a pas les mêmes intelligences. Non, rien que ça, déjà, ça doit...
Il y en a des plus futés que d'autres.
Oui, enfin, vous me demandez de résoudre des sudokus niveau 10 000, j'en suis incapable. Et ça ne m'intéresse pas. C'est un vœu pieux de vouloir créer cette échelle. Et en plus, je trouve qu'elle est assez injuste, parce que cette échelle, elle a été créée par l'homme. Et l'homme, il va tester tous les animaux et il va les hiérarchiser. Et l'idéal, c'est que plus on est intelligent et plus on est proche de l'humain. Et donc, on sous-entend qu'on mérite plus d'être considéré ou considéré différemment. Et ça, je trouve ça totalement injuste.
Je vous propose un extrait d'une émission de 1947 présentée par Jean Thévenot. Les animaux ont-ils une âme ?
Les animaux ont, à mon avis, exactement les mêmes facultés psychologiques que l'homme, avec une gradation. On a déjà dit qu'entre un homme et un éléphant, il y a beaucoup moins de différence qu'entre un éléphant et un ver de terre sur le terrain intelligence, sur le terrain mémoire, sur le terrain volonté, sur tout ce que l'on peut appeler des facultés intellectuelles. Je crois qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a que des questions de degré et de mesure, et que si l'homme a pris par rapport à l'animal une telle valeur spirituelle et intellectuelle que l'on se demande si vraiment ils y sont d'une autre essence et s'il faut attribuer à l'un une âme et pas à l'autre, eh bien c'est uniquement parce que l'homme a eu la possibilité, avec le langage, l'usage de la main et surtout l'écriture qui a été une conséquence du langage, de pouvoir transmettre ses traditions et de pouvoir chaque fois utiliser l'acquis de la science qui lui était fourni par des ancêtres de façon à s'élever de plus en plus.
Est-ce qu'on a évolué depuis 1947 ou est-ce que c'était une vision pertinente ?
Le fait de rechercher une gradation dans l'intelligence, oui, elle est tout à fait pertinente. Je pense que c'est ce qu'on doit garder en tête. Ce n'est pas une différence de nature d'intelligence, mais ce sont des gradations différentes. Et je pense qu'on parviendra à répondre à la question ultime si on arrive à poser les bonnes questions aux animaux.
Il parlait de la transmission, c'est vrai que les animaux n'écrivent pas, ne se racontent pas d'histoires.
Alors transmettre à sa descendance ou à un autre, ça peut effectivement passer par l'écriture, ce qu'on va faire, nous. Mais les animaux, ils ont d'autres façons d'apprendre. Donc on a des mères qui apprennent à leurs petits à développer des techniques de chasse, par exemple. On a aussi des animaux qui vont apprendre en observant. Donc, il n'y a pas besoin de passer par cette phase d'écriture pour transmettre. La transmission, c'est un phénomène qu'on va retrouver dans beaucoup de communautés animales.
Est-ce qu'on peut parler de culture animale ?
Alors, la question, ça a été de voir est-ce que certaines communautés d'animaux émettaient un comportement spécifique qui n'était pas dû à leur génétique, mais qui apparaissait parce qu'un individu, à un moment donné, avait trouvé ou avait effectué un comportement, il l'avait transmis à d'autres. Donc on a trouvé par exemple des singes qui avaient des patates douces, on a des dauphins qui vont pêcher avec une éponge sur leur rostre, et on a par exemple des orques qui vont apprendre à leurs petits à s'échouer pour développer une technique de chasse bien particulière. Donc le fait d'avoir ces comportements spécifiques à une communauté d'individus nous fait parler de culture animale.
Extrait d'une émission de France 2 diffusée en 2016. Elle était consacrée aux chimpanzés de Kyoto.
À première vue, les chimpanzés de l'université de Kyoto sont des singes comme les autres. Et pourtant, depuis quelques mois, certains d'entre eux suivent un entraînement particulier. Les scientifiques ont appris à 3 chimpanzés de 5 ans à compter jusqu'à 9 et à classer les chiffres du plus petit au plus grand. Les chercheurs ont augmenté la difficulté en masquant les chiffres après un laps de temps de plus en plus court. Et là, stupeur, les jeunes chimpanzés sont capables de reconstituer la suite de chiffres à une vitesse incroyable, la plupart du temps sans se tromper. Et plus le jeu est rapide, plus l'écart avec les étudiants humains se creuse. Conclusion, la mémoire visuelle immédiate des jeunes chimpanzés surpasse la nôtre.
On fait encore ce genre d'expérience ?
Malheureusement, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le singe, il surpasse l'homme.
Oui.
Donc déjà, si on doit avoir cette gradation d'intelligence, on est un peu détrôné. Et je trouve que voilà, on a des animaux qui sont hyper performants dans des tâches bien spécifiques. Et il y a des chercheurs en primatologie qui ont repris leurs travaux depuis une dizaine ou vingtaine d'années. Ils se sont aperçus que c'était pas les singes qui répondaient de manière très performante, mais c'était certains individus qui étaient extrêmement performants. Donc on a des individus qui peut-être sont motivés à répondre ou aiment ce type d'interaction, donc jouer avec des tablettes, un peu comme nos geeks actuels. Et donc ces individus sont prompts et rapides et donc performants. Mais ce n'est pas représentatif de l'intelligence des chimpanzés.
Lorsque l'on est éthologue comme vous, est-ce qu'on a une réflexion sur la souffrance animale? Est-ce qu'on y pense?
Alors, on vient de parler d'intelligence, de personnalité, d'émotion. Donc, on ne peut que parler d'éthique aussi. In fine, c'est et c'est ce que nous montre la recherche actuelle, que les animaux sont sentients. Est-ce que je peux, au jour d'aujourd'hui, avoir aucune considération pour les élevages en batterie, pour certaines mises à mort, pour des exploitations des animaux, pour des conditions de vie qui peuvent paraître aussi difficilement supportables pour les animaux. Donc oui, mais même dans mes protocoles expérimentaux, je ne veux pas contraindre à l'animal. Enfin, pour moi, la science, ce n'est pas ça, quoi. Par exemple, quand on fait des études en mer, on est très limité dans le temps. On a notre mission qui est financée pour 10 jours. Donc on est extrêmement demandeur parce qu'on sait que le temps va passer vite, donc il faut récupérer des données, collecter, etc. Et donc on est dans cette quête d'informations, sauf que l'animal, lui, il n'est pas là, il ne nous attend pas.
Non, ça, il n'est pas à votre disposition.
Non, et on doit être justement tolérant. Est-ce que à ce moment-là, il vit quelque chose dans son groupe qui est extrêmement important pour lui et ça ne l'intéresse pas de venir interagir avec nous. Donc, on doit être capable de comprendre ça aussi.
À propos de la souffrance animale, je vous propose un son enregistré en 2012 dans l'émission À voix nue sur France Culture. Jean Rochefort était interviewé.
En ce moment, ma marotte, c'est l'élevage industriel qui fait que nous sommes allés au-delà de la cruauté, il faudrait trouver un autre mot, pour des intérêts uniquement financiers. Par un calcul, on s'est aperçu que euthanasier une bête malade revenait trop cher. Donc, on n'euthanasiait plus. Et il y a des poubelles géantes qui sont pleines de veaux, de porcs, qu'on balance vivants dans ces poubelles, qu'on laisse mourir et pourrir, parce qu'il y aurait une perte financière trop grande. Et maintenant, ce que nous mangeons est au prix de l'horreur, quoi. C'est le prix de l'horreur.
Fabienne Delfour, une réaction?
C'est une pensée qui est extrêmement juste et très contemporaine, puisque aujourd'hui, beaucoup de penseurs réfléchissent à cette nouvelle relation avec l'animal. Et je pense aussi qu'on doit considérer ce qu'on vient de vivre là, récemment. Ça nous montre aussi qu'on est dans cette interdépendance. Donc, quelle place on a dans ce système-là? Est-ce qu'on force les animaux à rentrer dans un système totalement artificiellement construit par l'homme, ou on doit être remis à notre propre place?
Vous êtes éthologue, vous étudiez les animaux. Est-ce que les animaux vous ont fait changer?
Alors j'ai étudié les animaux, mais j'ai eu aussi, je pense, de temps en temps, l'impression que c'était eux qui m'étudiaient, puisque j'ai parfois monté des dispositifs expérimentaux qui ont été un véritable désastre. Ça n'intéressait pas les animaux, ou quand j'arrivais près du bassin des otaries ou des dauphins, ou que je m'approchais de ces animaux-là, ils disparaissaient comme par enchantement. Donc déjà, j'ai appris à être très humble par rapport à ce que je pouvais attendre. Et puis oui, c'est étonnant la manière dont ils peuvent vous signifier que c'est pas comme ça qu'il faut procéder, quoi. Qu'il y a peut-être une autre manière de poser des questions ou de poser des questions différentes.
Vous avez un souvenir précis en tête?
Justement, dans la manip sur la communication symbolique, j'étais très très fière d'avoir construit des symboles pour donc des triangles, carrés, ronds, auxquels j'avais associé des actions, etc. Et en fait, ça a été... j'ai pas pu conclure mon expérimentation parce qu'ils ont jamais participé. Je pense qu'ils ont jamais compris à quoi ça pouvait servir. Parce que leur communication avec leur soigneur animalier, elle était efficiente. Et le fait d'apporter ces symboles, ça servait à rien probablement. Donc, et j'y suis jamais parvenue.
Fabienne Delfour, est-ce que vous pensez que le rapport que nous, les humains, nous avons avec le monde animal est en train d'évoluer ?
Je souhaite qu'il évolue. Et puis, je pense que l'émission que vous êtes en train de réaliser va dans ce sens-là. Il y a vraiment une curiosité de plus en plus forte de la société et du grand public vis-à-vis de cette relation à l'autre et à l'animal. Donc, à partir de ces questions qu'on pose, des réponses qu'on va obtenir, il faut construire une autre société, un autre lien avec le vivant.
De tout temps, les hommes profonds ont toujours eu pitié des animaux. En vérité, c'est une lourde peine de vivre ainsi en animal, soumis à la faim et au désir, et de ne même pas parvenir à la moindre conscience sur cette vie. Pourtant, que l'on y réfléchisse bien, où cesse l'animal et où commence l'homme ? Nietzsche, Considérations inactuelles, 1876.
Pau é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caenga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um recado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. As águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
C'était les Eaux de Mars avec Antonio Carlos Jobim. Merci à Djoubaka pour la programmation musicale des Saventuriers. Les dindes de Noël, oser se mettre à la place de l'animal et le livre que Fabienne Delfour signe aux éditions Tana. Vous avez compris en écoutant cette émission que l'homme devrait probablement s'inspirer plus des animaux pour faire face aux bouleversements qui nous attendent. C'est le sujet de l'université d'été de l'animal organisée chaque été par Yolaine Delabigne. Cette cinquième édition aura lieu les 28, 29 et 30 août au château de la Bourbansais situé entre Rennes et Saint-Malo. Il y aura aussi un festival de lecture dont la marraine est Annie Dupéret. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Leroy pour les recherches d'archives et pour ses lectures qu'elle a faites avec Jérôme Sandlars. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission et la podcaster sur le site de France Inter. Je vous le redis, toutes les émissions de cette série estivale sont déjà en ligne pour que vous puissiez les emporter sur la route des vacances. La page des Saventuriers est aussi à votre disposition. Samedi prochain, nous parlerons des arbres et des plantes avec Jacques Tassin, chercheur, dont le dernier livre est « Pour une écologie du sensible ». Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.